La première,
9h-11h,
entrée sans frapper.
C'est le site non commercial le plus visité du web, l'encyclopédie libre Wikipédia, à 15 ans. Alors pour en parler justement, on a trois invités autour de la table. Alain Berenbaum, bonjour.
Bonjour.
Avocat spécialisé en droit d'auteur, vous avez une chambre d'ailleurs ici à l'RTBF.
Oui, ça y va.
Vous venez très souvent dans nos émissions. Antoine Motte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dit Fallis, c'est votre nom. Vous êtes vice-président de Wikimedia Belgium. Vous contribuez au site Wikipédia depuis que vous avez 16 ans. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Emmanuel Wattelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en information et communication à l'UCL. Vous êtes chercheur aussi à l'IEX, etc. Et vous avez fait une thèse qui est intitulée « Autorité et autorité émergente dans un contexte organisationnel non hiérarchisé en ligne, le cas de l'espace francophone de Wikipédia ». Alors j'aimerais qu'on commence avec un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est un site extrêmement visité, bien évidemment. Je ne sais pas combien de millions de personnes ça attire par jour, mais vous devez avoir la réponse, Antoine.
Je pense qu'on est à 500 millions de pages visitées par mois.
Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Avec une vingtaine de millions aussi de visiteurs, 36 millions d'articles dans 280 langues. Donc c'est effectivement massif aujourd'hui. Alors Wikipédia, ça vient d'où finalement, Emmanuel? Comment on explique la naissance de cette encyclopédie libre?
Alors peut-être que c'est plus difficile de répondre à cette question que ce qu'il paraît, parce que la réponse facile, c'est quoi? C'est de dire que Wikipédia naît en 2001 sur une initiative de Jimmy Wales et un philosophe Larry Sanger. Mais la réponse, elle est en fait un petit peu plus compliquée. On pourrait revenir à l'encyclopédie Diderot, voire même revenir encore plus tôt à des tentatives de premières encyclopédies en Asie. Mais si on prend l'histoire plus proche, on peut en tout cas revenir à une initiative d'un des pionniers de l'Internet qui s'appelle Rick Gates. Et avant même l'existence du World Wide Web, donc cette interface que l'on connaît bien et qui pour nous est Internet, qui avant même c'est l'existence de cette interface, avait fait un appel pour réunir en un seul endroit de l'Internet la connaissance universelle. Et il avait appelé ça Interpédia. Ensuite, on a eu Richard Stallman, qui est le grand prêtre du logiciel libre, qui lui avait fait un appel pour avoir une encyclopédie qui soit construite, co-construite par une masse de contributeurs et qui soit libre, accessible à tous et libre. Ça, c'était GNUPédia. Et en même temps, Jimmy Wales a lancé son concept de Nupédia, qui était une encyclopédie réalisée par des experts, qui n'a pas marché du tout, qui est devenue ensuite Wikipédia. Donc on voit que cette histoire-là, elle est plus nuancée, plus complexe, et qu'une innovation ne naît jamais de rien. En
Et on peut y ajouter un Belge, qui est Paul Hautelet. Paul Hautelet qui...
Tout à fait, oui, tout à fait.
Et l'espèce... D'ailleurs, pour les Américains, il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en Belgique. Il est considéré un peu comme le père, justement, des bases de données, puisqu'il a, dans un grand mouvement de folie, mais il avait beaucoup d'argent, engager des centaines de gens, on est au début du XXe siècle, pour mettre le monde entier sur fiche. C'est le Mondaneum.
C'est le Mondaneum aujourd'hui à Mons, hein, que vous pouvez visiter, qui est un endroit d'ailleurs absolument passionnant. Alors, on se demande tous comment ça fonctionne Wikipédia, parce que Wikipédia, on l'a dit, c'est 36 millions d'articles, 280 langues. Dès que quelqu'un meurt et qu'on l'apprend, moi je m'amuse toujours, c'est horrible, désolé, allez voir sur la page, c'est déjà changé, hein, c'est déjà modifié, les moindres bêtises sont assez vite modifiées. Donc Wikipédia, c'est une encyclopédie que nous pouvons, nous, tous modifiés, constitués, etc. Ce qui, enfin, on sait comment ça se passe dans la rue. Je veux dire, les gens jettent leurs poubelles, leurs papiers par terre. Donc, sur Wikipédia, c'est la même chose. Il y en a qui vont écrire des bêtises. Et pourtant, tout cela parvient à s'équilibrer. Alors, justement, Antoine, moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça se fait que Wikipédia est finalement un univers relativement stable et crédible, alors que du plus intelligent au plus crétin, on en a tous, on y a tous accès. Et puis, tous les lobbies y ont accès. Donc, j'imagine qu'il y a des sujets qui sont quand même délicats. Si on va sur État islamique, il y a un mec qui a pu en dire beaucoup de bien et un autre qui a voulu en dire beaucoup de mal. Comment ça se fait que ce soit stable, finalement?
Eh bien, on ne sait pas. C'est ça qui est assez merveilleux, c'est que Wikipédia, c'est censé ne pas fonctionner Tout nous démontre que ça devrait être le chaos absolu et pourtant, ça fonctionne, contre toute attente. Alors, il y a plusieurs choses qui permettent d'expliquer ça. Il y a d'abord toute une série de règles qui ont été mises en place au fil du temps. Ce sont des règles qui se sont cristallisées entre 2006 et 2009, plus ou moins. C'est à ce moment-là que le plus gros de la communauté des contributeurs est arrivé, etc. Mmh. Ce sont des règles qui établissent les règles de notoriété, par exemple, pour pouvoir créer un nouvel article sur une personne vivante, par exemple. Les règles de sélection des sources. Qui explique la qualité d'une source, comment est-ce qu'on doit sourcer une information, comment on doit donner les informations bibliographiques, etc. Qui fixe aussi les règles que l'on doit s'attribuer en tant que contributeur soi, c'est-à-dire ne pas parler de soi-même, aborder un ton neutre, encyclopédique, etc. Et donc toutes ces règles-là font qu'il y a un autocontrôle qui est relativement fort, un contrôle par les pairs aussi, c'est-à-dire que chacun, tout est parfaitement transparent, donc chacun peut aller voir ce que le voisin a modifié, ce que le voisin a écrit.
Il y a un historique des modifications, on va en parler avec le wiki.
Chaque article, hein. Il y a un petit onglet historique, vous pouvez cliquer dessus et découvrir virgule par virgule tout ce qui a été modifié dans chaque article. Et il y a un historique des contributions pour chaque contributeur aussi.
Donc, alors vous avez commencé à collaborer à Wikipédia à 16 ans. Qu'est-ce qui a poussé un enfant de 16 ans à collaborer à une encyclopédie en ligne plutôt qu'à jouer à Call of Duty?
Alors d'abord, c'est pas incompatible.
Je sais.
Eh bien, je ne sais pas. C'est une très bonne question. J'en parlerai à ma psy à l'occasion.
Non mais qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce qu'il y avait d'excitant à ça? J'imagine que c'est le projet global qui est excitant.
Ah, c'est le projet global qui est excitant, oui. C'est réussir à collationner l'ensemble du savoir de l'humanité au même endroit, avec des règles qui ont une éthique, qui est un principe très très humaniste et désintéressé. On n'a pas l'impression d'enrichir les puissants ou de contribuer à la destruction du monde.
Parce qu'on rappelle que c'est un site entièrement non commercial, hein, oui, Wikipédia. Alain Berenbaum, le juriste que vous êtes,